France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Philippe Cassard.
Je m'appelle Michel Béroff. Je suis né le 9 mai 1950 à Épinal. Et je suis pianiste.
Michel Béroff, après ces trois émissions où vous êtes revenu grosso modo sur les 20 premières années de votre vie, on entre désormais de plein pied dans votre carrière en commençant par évoquer certaines grandes figures de la musique comme Leonard Bernstein, avec qui vous avez joué. Alors, il était comment Bernstein ?
C'était tellement marrant, il était tellement extraverti, tellement chaleureux, tellement...
Tellement,
comme il a toujours été de toute manière. Moi, j'étais un jeune, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans, j'étais tout jeune. Et bon, voilà, c'est des souvenirs parce que bon, il parlait beaucoup, il était très... Voilà, alors que Boulez, non.
Mais quand vous jouiez, par exemple, avec Bernstein, dans les répétitions, il intervenait, il parlait, il échangeait avec vous?
Pas trop, non. Pas trop. Non, alors que Boulez, j'ai travaillé vraiment avec lui. Et il a jamais dit de choses, évidemment, qui n'étaient pas parfaitement utiles et parlait pas pour ne rien dire. C'était pas, ça
sur
débordait pas.
Sur ses propres œuvres et
pareil,
sur le
chaque
répertoire.
Fois qu'il y avait une chose, c'était pour quelque chose de précis. Bon, le Bartok, c'était avant, là, quand on a travaillé avant, puisque toute digne chef d'orchestre, normalement, s'intéresse un peu au soliste qui dirige et à la jeune soliste, donc on a travaillé un peu avant. Mais il y a une sécurité avec lui incroyable. Il peut rien arriver. Donc c'est vrai que c'était quand même un plaisir. Et bon. Mis à part le fait de la simplicité dans le discours, quoi. On était deux musiciens qui parlaient du deuxième de Bartok, mais l'image évidemment de Boulez qui était tellement véhiculée, qui était tellement fausse, c'était un homme qui aussi peut-être s'est adouci avec l'âge, mais qui était toujours d'une grande générosité, extrêmement modeste par rapport à la musique. Et quand il parlait des musiciens, il était au même niveau que les musiciens. Il n'y avait pas du tout une parole cardinale. Donc ça a toujours été un grand, grand plaisir.
Et Ozawa, avec qui vous avez
enregistré? Ozawa, j'avais une passion pour Ozawa aussi. J'ai pas mal joué à Ozawa, avec Ozawa à Paris, à Boston, au Japon, dans son festival et tout. Pour moi, c'est un des rares chefs que j'ai vu vraiment diriger un orchestre en me disant s'il n'était pas là, rien ne se passerait. Mais dans le moindre des détails, c'est phénoménal, c'est plus que la gestique. Mais le voir diriger, c'était pas comme... comme Bernstein qui dansait la musique et qui était un musicien extraordinaire, ou comme Mazel, par exemple, qui lui était un cerveau. On voyait chaque connexion de son cerveau, de regarder comme cette intelligence que je fais, regarder comme je contrôle ça, comme je connais tout ça par cœur, mais chez qui manquait une certaine chaleur, pour moi, parfois. Alors que, bon, Ozawa, c'était la générosité, le contact immédiat, et puis surtout un musicien intuitif, mais avec une énergie extraordinaire et une efficacité. Donc ça, à Ozawa, ça a toujours été un de mes grands chefs avec qui j'ai toujours un plaisir extraordinaire.
Là, ce dont on parle, ce sont les concertos.
Oui.
Beaucoup de concertos du XXe siècle.
Oui.
Mais alors, la part solo, vous aviez un peu de temps, oui, j'imagine, pour quelques récitals.
Oui, oui.
Quelles étaient vos priorités, vos goûts, votre appétence pour tel ou tel compositeur? Qu'est-ce que vous aviez envie de jouer seul?
Moi, j'étais de toute manière extrêmement curieux. C'est-à-dire que je travaillais déjà à 12 ans, 5 heures par jour. Entre l'âge de, oui, disons, de 13 et 18, je faisais du déchiffrage, tout. Enfin, dire beaucoup de Schumann, bon, beaucoup de Beethoven, du Bach. Donc, j'ai une curiosité musicale qui s'est jamais départie, j'espère. En tout cas, c'est vrai que pour moi, il n'était pas question de me limiter à un certain répertoire. Quand j'ai commencé à faire des disques pour EMI, on m'a dit attention, parce que les gens se spécialisent, il y a des étiquettes, on demande. Bon, en soi, c'est pas que ça me gênait tellement. Simplement, je me dis que j'avais envie quand même. Je pouvais pas passer ma vie en jouant un certain répertoire sans jouer du Schumann, du Chopin, du Beethoven, du Brahms, du Mozart, du... Voilà. Donc, je me suis forcé, non pas à les jouer, mais forcé à les programmer dans des endroits où on m'aurait demandé plus directement la musique du XXe siècle pour, voilà, pouvoir jouer cette musique que j'adorais, que j'adore toujours. Et je peux même pas imaginer ne pas les jouer, voilà. C'est donc le mon répertoire de l'époque, il y avait beaucoup de Schumann, c'est vrai, Schumann a toujours été prêt, beaucoup de Liszt, beaucoup de Bartok, Prokofiev, Debussy, Ravel, Messiaen, Boulez aussi.
Beaucoup de Liszt, c'est-à-dire?
Liszt, beaucoup la sonate, quelques études transcendantes.
Vous l'avez pas enregistré, la sonate?
Non, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Peu de pianistes français ont enregistré
beaucoup d'œuvres, la sonate de Liszt, là, j'ai joué ça fait 53 ans que je joue cette sonate, donc je la joue toujours régulièrement, donc c'est pas du tout une œuvre, elle m'a toujours accompagné, et c'est vrai, bon, j'adore Liszt le personnage, j'adore sa musique, pas toute, mais bon, une bonne partie de sa musique, mais c'est la sonate, il est bon, pour moi c'était évidemment...
La pierre de touche.
Oui, totalement. Donc voilà, Beethoven, j'ai joué pas mal de sonates aussi. Mais autrement, je sais pas, Tchaïkovski...
Alors, peu de Chopin, quand même.
Chopin, oui, Chopin. J'ai joué un peu de Chopin, mais j'ai jamais mis Chopin régulièrement à mes récitals.
Ni Rachmaninoff.
Rachmaninoff, si, j'ai joué beaucoup les concertos.
Ah bon,
dans le troisième, la Rhapsodie sur Antonio Paganini, ça, j'ai joué pas mal.
Mais il y a longtemps ?
Il y a longtemps, oui. Mais autrement, piano seul.
Mais vous vous y sentiez bien dans cette musique ?
Ça j'adorais la Rhapsodie.
Tellement loin de
la Rhapsodie, j'adorais. Oui. Le troisième concerto, c'est un peu le challenge, quoi. Je me souviens, c'est Tilson Thomas qui m'avait demandé à Boston de travailler, puis on avait une tournée, donc j'avais travaillé ce concerto. Et finalement, c'est vrai qu'il y avait un petit peu quand même le fait de se dire, oh là, j'ai quand même envie de jouer ce concerto. Tout le monde dit que c'est le concerto qui a le plus de notes au monde. Personne ne le jouait, enfin peu de gens le jouaient. Et ce concerto, il y a Cyprien Katsaris, qui était au concours Reine-Elisabeth, et qui l'a enregistré, qui a eu un prix, et qui a enregistré ce concerto. Et finalement, petit à petit... Non pas que les Russes le jouaient certainement beaucoup, mais tout le monde a voulu jouer ce concerto qui avait plus de notes que le deuxième concerto qui était... Donc effectivement, j'ai dû faire partie un petit peu de ça, en me disant, il faut absolument que je travaille ce troisième concerto. Et puis une fois que je l'ai travaillé, je l'ai quand même joué un certain nombre de fois.
Justement, cette vie où il y a 100, 110, voire 120 concerts comme ça qui s'enchaînent avec des programmes différents, vous l'avez bien vécu. Enfin, c'est une chose où vous ne voyiez pas passer le temps entre votre travail personnel, les concerts, les répétitions, les voyages. Tout ça devait être extrêmement calibré, précisément organisé.
C'est vrai. On arrive à une autre partie qui est un petit peu plus douloureuse. C'est vrai qu'à la fois, il y avait des gratifications qui étaient multiples. Évidemment, le fait de faire de la musique, qui est quand même, une fois, qu'on est sur scène, qu'on joue, même si parfois on peut être extrêmement nerveux, c'est quand même un plaisir, un privilège absolument extraordinaire. Donc ça, c'est... Par contre, tout ce qui entoure les préparations, le voyage, l'angoisse avant les concerts, ça peut...
Vous êtes tracker ?
Oui. Mais bizarrement, parce que je connais beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont énormément le trac et dès qu'ils sont sur scène, c'est fini, il n'y a plus rien. Moi, c'était un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien arriver qu'avant, si j'ai l'air d'être tout à fait normal, tout allait bien, et le trac, je me le prenais sur scène. Et ça, c'est plus angoissant.
Quel que soit le degré de préparation ?
Ah ben, ça, on ne sait jamais.
Et le fait aussi de faire ses débuts, parce que vous avez donc dû faire vos débuts avec ces personnalités dont on a cité quelques noms, est-ce qu'on se sent porté, tiré vers le haut par des échanges avec de tels artistes, ou au contraire, c'est écrasant ?
Oui, en fait, on se sent plutôt tiré vers le haut. C'est-à-dire, je n'ai pas souvenir d'avoir eu vraiment des grands, grands tracks à cause de grands chefs d'orchestre. Au contraire, ça m'a plutôt stimulé, ça. Par contre, c'est plutôt le récital. Récital, la grande salle, le truc, la pression, les gens, la première fois.
La solitude.
La solitude. Voilà. ça peut créer des... Ça peut ronger un petit peu à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça a rongé forcément quelque chose. Mais, encore une fois, comme tout est lié, il n'y a pas de rupture. Tout a une histoire.
Michel Béroff, comment vous définiriez votre esthétique musicale, votre style musical ? Parce que moi, en tant que pianiste, et pour avoir préparé un portrait de famille pour vous, et vous avoir suivi pendant tant d'années, j'ai une idée, qui m'est propre, bien sûr, mais j'aimerais vous entendre, même si c'est difficile de parler de soi, j'aimerais vous entendre...
Oui, mais c'est très difficile. Parce
quels sont vos buts ? Quelles sont vos priorités quand vous abordez une œuvre, quand vous la jouez ?
Je ne sais pas si je suis capable d'en parler, parce qu'encore une fois, il y a ce que moi je fais comme travail de préparation, et puis il y a la manière dont c'est ressenti par les gens qui écoutent. C'est vrai que j'ai toujours eu, et j'ai en tant que pianiste, mais en tant que professeur aussi, beaucoup, un regard sur le texte qui était quand même très très pointilleux, et j'ai pesté contre beaucoup d'élèves qui ne savent pas lire. Ça n'utilise pas leurs yeux pour regarder un texte. Je parle même pas après d'aller à l'intérieur d'un texte qui est évidemment quelque chose d'absolument indispensable. Mais ça, on le fait uniquement si on regarde. Si on n'utilise pas ses yeux, on pénètre pas un texte. Alors donc ça, malgré encore une fois toute la liberté qui est laissée à l'interprète, je me suis aussi rendu compte que les compositeurs ont fait de moins en moins confiance aux interprètes. Quand on voit la notation musicale, quand on voit comment a été notée la musique à l'époque de Bach et avant Bach, et quand on voit la progression, déjà, chez Beethoven, quand on voit la musique romantique, quand on voit le XXe siècle, la notation, qui peut d'ailleurs parfois devenir caricaturale, puis après, ça s'échappe vers le dessin, vers la sculpture, enfin tout ce qu'on veut, avec les délires qu'on connaît dans la seconde partie du XXe siècle. Mais la notation musicale, elle est évidemment très, très importante. Et encore une fois, si les compositeurs ont été de plus en plus précis, c'est pour éviter qu'il y ait de moins de contresens. Les contresens musicaux, on en fait beaucoup. Bon, quand on prend un texte, on en apprend ça à l'école, on peut très, très bien lui faire dire n'importe quoi. Quand on voit des mises en scène d'opéra par rapport au livret, on voit ce que certains metteurs en scène font dire à un livret, ce qui peut être parfois très, très enrichissant, mais parfois extrêmement choquant. Donc c'est pareil avec la musique. Avec la musique, on a une marge importante, une fois qu'on est quand même dans une certaine limite fidèle à un texte qui laisse, encore une fois, une énorme marge, parce qu'évidemment, tout ça est totalement subjectif.
France Musique, les grands entretiens de Michel Béroff.
Mais est-ce que vous êtes intéressé par les éditions, par exemple, les éditions différentes, les facsimilés? Est-ce que vous regardez les facsimilés?
J'adore les facsimilés. J'ai pas mal de facsimilés et c'est toujours intéressant. Alors évidemment, après, chaque compositeur a son écriture. Alors je fais pas non plus de la graphologie, qui peut être évidemment, vous regardez une partition de Debussy, un manuscrit ou un manuscrit de Beethoven, ils n'ont pas grand-chose à voir et pourtant, chaque petit détail peut être signifiant, sauf que évidemment. Il y a ceux qui écrivaient de manière extrêmement précise et propre et qui mettaient au propre leurs manuscrits, d'autres qui laissaient ça aux éditeurs qui avaient beaucoup de mal à comprendre parfois les... Non, ça me passionne de regarder les manuscrits et de voir les différences.
Vous mettez vous-même vos doigtés sur vos partitions ?
Moi, j'étais obsessionnel avec ça. J'écrivais tous les doigtés sur chaque note. Par exemple, quand j'étais jeune, entre justement 15-16 ans, toutes mes partitions sont bourrées de doigtés. Maintenant, j'en écris presque quelques-uns. Mais quand même, je suis un visuel aussi. Et la partition, je la vois vraiment aussi bien d'ailleurs pour le travail. J'ai l'impression que si je travaille avec un doigté, alors évidemment, je peux le changer. J'essaye. Mais une fois que je l'ai écrit, il est fixé.
C'est difficile de revenir en arrière.
Mais je connais très bien, évidemment, le danger terrible de cette mémoire digitale. Parce que bon, c'est pas celle que j'utilise vraiment, mais elle existe. Donc, c'est très important pour moi, les doigtés. On remarque très très bien que juste changer de doigté fait sonner différemment un équilibre dans un accord.
Et Chopin nous a montré un peu le chemin quand même en mettant des doigtés très intéressants, où on glisse d'une note à une autre.
Absolument,
avec
le
même doigt.
Oui. De toute manière, Chopin est le compositeur qui connaît le mieux la main du pianiste, donc personne n'écrit aussi bien pour le piano que lui. Et c'est pour ça que tout à l'heure vous me disiez Chopin n'est pas tellement dans votre répertoire au concert, c'est vrai, mais je travaille du Chopin sans arrêt.
Ah oui.
Sans arrêt. Là, bon, pendant
le
confinement
encore. Moi, je vous ai entendu jouer les préludes de Chopin.
Ouais. Mais bon, j'écris, j'ai travaillé beaucoup de Chopin tout le temps. Et j'adore
vous aimez,
Chopin.
Vous
j'adore
êtes...
Chopin. J'adore Chopin.
Et quels sont les pianistes que vous aimez en Chopin? Mort ou vivant?
De toute manière, c'est très compliqué. Parmi les vivants, j'ai plus ou moins deux pôles comme ça, le pôle Martha Argerich et puis le pôle Pollini, qui sont des pôles extrêmement divers. Il y a quelques cortos que j'adore, mais je suis pas à 100% toujours Rubinstein. Et maintenant, effectivement, peut-être celui que je préfère dans Chopin, parce que voilà, c'est d'un naturel. Quand je vois aujourd'hui les dérives et les délires de certains pianistes qui jouent Chopin, alors qu'à l'époque, quand j'avais 16 ans, je pensais que Rubinstein, c'était un peu superficiel, des choses qu'un imbécile peut penser à cet âge-là. On devient assez vite imbécile parfois quand on est jeune. Aujourd'hui, je me dis que c'était un pianiste qui avait un respect extraordinaire. Il avait évidemment une sonorité absolument unique, un équilibre dans sa main. Dès qu'il posait la patte sur le piano, ça, c'était beau, c'était riche, c'était éloquent. Et donc, pour moi, peut-être Rubinstein est quand même ma référence.
Michel Béroff, en 1975, vous décidez d'aller travailler auprès d'un pédagogue assez renommé à l'époque en France, Jean Fassina. Comment ça s'est passé?
C'est ça. D'abord, la raison, c'est que j'avais déjà quand même beaucoup, beaucoup joué pendant ces quelques années et j'avais décidé de prendre 6 mois sabbatique, sans concert. Voilà,
C'était sans concert, SANS.
C'est ça, oui. Et bon, pour une bonne raison, c'est qu'on va d'abord les 6 mois pour travailler de nouveaux répertoires et puis pour prendre un petit peu de recul parce que j'avais quand même beaucoup, beaucoup joué les années précédentes. Et j'avais entendu parler de Jean Fassina par mon ami Jean-Adolphe Kars, qui était un magnifique pianiste, qui avait gagné le concours Olivier Messiaen l'année après moi, en 1968, qui avait commencé une carrière brillante, qui a fait des disques pour Decca, et qui avait reçu, c'était très jeune, la grâce. Il était devenu croyant, il avait été faire des études de théologie, il est devenu abbé. Et lui avait rencontré Jean Fascina, et lui était absolument fasciné, sans le faux jeu de mots. Donc ça m'avait, c'était resté dans un coin de mon esprit. Je me suis aussi souvenu que j'avais eu peu de professeurs. Ce que j'ai appris, mais après, j'ai dû découvrir beaucoup de choses seul, et dans des circonstances qui étaient aussi difficiles, puisqu'il fallait quand même, je me produisais sur scène et j'avais pas de garde-fou, je pouvais pas jouer à un professeur en disant « Marie, est-ce que ça va, est-ce que je peux jouer ?» Donc j'étais jeune et c'est vrai que ça m'avait manqué. Donc je me disais, après tout, c'est peut-être une bonne idée d'aller voir Jean Fascina. Et c'est vrai que bien m'en a pris parce que j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement exigeant, qui avait des idées qui, pour moi, m'ont toujours paru simples, mais avec une à l'intérieur une vérité comme beaucoup de choses simples. C'est l'articulation du doigt, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. C'est comme enfin quand on fait du yoga, quand tout d'un coup on médite sur une chose. Après ça irradie un petit peu partout et petit à petit si on comprend vraiment mais sans se dire tout ce que j'ai fait avant c'était nul parce que ça n'a pas de sens. Au contraire, ça ne peut qu'enrichir. Il était tellement perfectionniste, il voulait tellement que les choses soient faites bien qu'il avait tendance à dire de ne plus jouer du tout en concert, de tout oublier et de recommencer à construire.
La fin du dernier mouvement du deuxième concerto opus 83 de Brahms, interprété en live le 25 mai 1979 à Dresde, avec l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, dirigé par Eugen Jerome, et au piano, bien sûr, Michel Béroff. Le podcast et les références des œuvres entendues au cours de cette émission sont à retrouver sur la page de francemusique.fr. Merci à l'équipe d'aujourd'hui, Flora Sternadel, Benjamin Vignal, Julien Girard, Étienne Collin et Gilles Blanchard. À demain pour le dernier grand entretien de Michel Béroff.
À réécouter sur francemusique.fr.